était une fois. Une production des médias catholiques. Manu Van Leer.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en compagnie de Natacha Koch pour une émission spéciale d'Il était une fois. Bonsoir Natacha.
Bonsoir Manu, bonsoir à tous.
Aujourd'hui, les chrétiens commémorent les défunts et à cette occasion, nous avons choisi de vous présenter le témoignage de Valentine Delecourt. Avec son époux, Valentine a créé la fondation Lali suite au décès de son petit garçon Charles, que tout le monde surnommait Lali.
En avril 2015, Lali a été victime d'un accident domestique. Lors d'une fête organisée pour ses 4 ans, le petit garçon est passé à travers une verrière. Il a fait une chute de 4 étages. Après 5 jours dans le coma, Lali est décédée. Les médecins parlent alors du don d'organes et d'une même voix, Thomas et Valentine, ses parents, acceptent. Ce geste a permis de sauver 5 enfants, signe que la mort n'est pas la fin de l'existence.
Une existence qui se prolonge également à travers la Fondation Lali qui œuvre aujourd'hui dans la prévention des accidents domestiques, le financement de projets liés à la recherche sur le cerveau, la sensibilisation aux dons d'organes et l'accompagnement dans le deuil. Angélique Tazio a rencontré Valentine, la maman de Lali, pour un témoignage très touchant que je vous propose de découvrir sans attendre.
Aujourd'hui, il y a du soleil et pourtant nous nous retrouvons pour évoquer un sujet grave puisqu'il concerne la mort d'un enfant. C'est une épreuve à laquelle on peut survivre.
On peut même vivre après. Au début, on survit et puis après, on réapprend à vivre.
Lorsque je vous ai eu au téléphone, vous m'avez touchée en disant que vous aviez reçu beaucoup de messages de parents. On les appelle les parents désenfantés, mais des messages de solidarité, d'anonymes et d'inconnus.
Oui, je me souviens d'un message en particulier qui disait « Bienvenue dans cette famille ». Que sont les parents désenfantés, une famille particulière, un peu alternative, mais où on se soutient. Et c'est très particulier parce que quand on en croise un, les gens dans l'assemblée vous disent toujours, hein, vous êtes à un mariage, eux, ils ont perdu un enfant. Il y aura toujours un moment, je le sais, sans l'avoir cherché, où on va se retrouver juste à deux, sur un banc. On ne va pas se demander ce qu'on fait dans la vie ou l'endroit où on part en vacances, mais on va tout de suite parler de ça.
Donc aller à l'essentiel, en fait.
Oui. Il y a une intimité qui se crée immédiatement et il y a un soutien vraiment incroyable. J'ai reçu beaucoup, on s'est échangé tellement de messages avec des inconnus.
Vous avez l'impression que ce cœur à cœur est possible parce que vous avez touché l'extrême du dessaisissement?
Peut-être, mais ce qui est étrange, c'est que ça se met aussi dans d'autres conversations. Parce que d'autres personnes qui ont vécu d'autres souffrances, une rupture, une maladie, etc., étonnamment, viendront plus facilement s'en ouvrir complètement à moi sur leur souffrance. Alors les gens, ils ont toujours cette chose très étrange de me dire « Oui, enfin, c'est rien par rapport à ce qui t'est arrivé. » Ce qui est étrange parce que c'est pas vrai, ce n'est pas rien. Je trouve qu'il ne faut pas hiérarchiser les souffrances. Les gens pensent que perdre un enfant, c'est la pire des choses. Moi, je ne sais pas, c'est la seule vraie souffrance que j'ai eue. Donc, je n'ai pas vécu d'autres deuils ou de ruptures maritales ou de maladies très graves dans mes proches. Donc, je ne pense pas qu'il y ait moyen d'hiérarchiser. Mais ce qui est important, c'est que le cœur devient tout nu quand on a une souffrance et donc est terriblement accessible à autrui. Et ça permet des échanges humains très vrais.
Et c'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée, puisque ce n'est pas seulement les premiers mois, mais ça continue après.
Ah oui, parce que je pense qu'on est changé pour toujours.
Il y a moins de superficialité.
Oui, alors on peut toujours rire et faire les fous sur une piste de danse et discuter de mode ou de diététique ou d'un roman qu'on a apprécié. Mais on apprécie encore plus, je pense, la vérité du cœur de la personne qu'on a en face de soi.
Alors vous évoquez les romans, vous êtes aussi vous-même auteur. Est-ce que le fait d'avoir une activité artistique est quelque part une porte de sortie ou une issue de secours?
Je ne sais pas répondre à cette question parce que je faisais déjà ça avant et j'ai continué après. Alors ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas pu lire, moi qui suis très accro à la lecture, je n'ai pas pu lire pendant quelques semaines et puis je n'ai pas pu écrire pendant de nombreux mois. Parce que c'était trop de souffrance de me retrouver seule devant un ordinateur, seule devant mes pensées. Mais c'est revenu. Donc en fait, le cœur reste blessé, bien sûr, mais les choses se réparent quand même.
Alors, au décès de Charles, vous avez décidé de créer une fondation.
Oui, la fondation Lali, puisqu'en fait, sa sœur Eugénie appelait mon fils Charles Lali, et donc nous l'appelions toujours comme ça. Et donc, on a voulu créer la fondation Lali pour faire différentes choses, mais aussi, puisque mon fils est décédé d'un accident domestique, pour faire diminuer énormément les accidents domestiques, puisque nous avons rencontré beaucoup de médecins lors de l'hospitalisation de Charles, et qui nous expliquaient que la Belgique était plutôt un mauvais élève en ce qui concernait les accidents domestiques, que c'était une des toutes grandes causes de mortalité des enfants. L'endroit qu'on pense être le nid, l'endroit le plus sûr, est en fait un endroit qui recèle énormément de dangers, plus qu'ailleurs encore. Et donc, on a vraiment voulu faire quelque chose par rapport à ça.
Oui, vous le dites, hein, le nid qui recèle des dangers, c'est quelque part beaucoup plus pernicieux qu'une grande route à laquelle on sera peut-être plus attentif.
Oui, bien sûr, dans un parc public, vous allez suivre votre enfant au toboggan. Si vous êtes au restaurant, vous n'allez pas le laisser se promener un peu plus loin, etc. Vous allez le suivre tout le temps. Tandis qu'à la maison, comme vous vous sentez dans un endroit très connu et que l'enfant aussi, vous pouvez facilement le laisser seul quelque part pendant que vous faites autre chose, ce qui est logique. Mais en fait, c'est très simple. Un tiroir peut très vite s'ouvrir, un escalier peut être dangereux, un enfant peut... attraper quelque chose et se blesser ou se couper ou...
Après le décès de Charles, avez-vous eu l'impression d'être beaucoup plus attentive avec vos autres enfants, plus angoissée peut-être ou inquiète?
Voilà, je vais vous raconter un petit truc un petit peu, je vais paraître un peu folle, mais j'ai eu deux bébés après le décès de Charles, et quand j'étais en voiture et que ma fille Eugénie était attachée derrière, je disais, regarde dans le maxi-cosi, vérifie, est-ce que le bébé respire, vérifie, je lui demandais ça très très souvent. Ma fille regardait ça de manière tout à fait zen, puisqu'elle a traversé tout ça avec moi, elle me disait, non c'est bon, il est vivant. Et quand des gens montaient dans ma voiture, ils étaient très choqués par un enfant qui dit d'un air de parfaite indifférence, ne t'inquiète pas, le bébé est vivant.
Venons-en à cette fondation Lali. Elle est très personnelle, hein, puisqu'il y a des portraits de votre fils un peu partout. C'était important de le personnifier là aussi.
Alors, ce sont des dessins. Donc, c'est vrai qu'il ressemble très fort à mon fils. C'est d'ailleurs ma cousine qui est dessinatrice qui l'a fait pour nous. Mais donc, ce ne sont pas des photos de lui. Ça me paraît pouvoir plus parler à tout le monde. Donc, si vous allez sur le site, c'est un petit garçon blond. Mais comme la Belgique en est pleine. Donc, il peut être plein de petits garçons différents.
Mais en même temps, portrait dans le sens où, effectivement, on distingue clairement le fait qu'il s'agit d'un petit garçon et pas d'une petite fille. Hein, il y a ce côté pirate aussi, avec ce grand chapeau.
Mais dans le cadre des accidents domestiques, il concerne aux trois quarts les garçons. Et les garçons sont manifestement plus explorateurs, plus casse-cou, etc. Donc, 75% des accidents domestiques ont pour victime des petits garçons.
Quelle a été la réaction du milieu médical, par exemple, à la création de la Fondation?
Ils ont été plus que soutenants. Ils continuent à corriger tous nos contenus. Donc, quand on fait des fiches médicales, les fiches d'urgence, quand on a fait notre maison des dangers, etc. sur Internet, ils le corrigent très gentiment. Ils sont venus faire des conférences pour nous, présenter un film qu'on a fait. Donc, on travaille en collaboration parfaite. On a mis en place aussi des bourses, hein, pour la recherche médicale. Donc, on est tout le temps en contact avec eux. Et c'est vrai qu'ils étaient... Je les ai trouvés tellement humains pendant le coma de Charles, tellement impliqués, tellement dévoués. J'étais très impressionnée par... J'avais l'impression qu'ils ne dormaient jamais.
Et c'était important pour vous, après avoir été touchée par un deuil, de poursuivre vers d'autres?
Ah oui, c'était essentiel. J'ai reçu tellement de soutien, mais tellement de soutien. Il y a eu des chaînes de prières de centaines de gens à ce moment-là. Mon mari animait un blog pour donner des nouvelles au jour le jour. Et des gens organisaient, c'était à Pâques, beaucoup de gens étaient à la mer, il y a eu des messes qui ont été faites à la mer, il y a eu des messes qui ont été faites dans différentes villes de Bruxelles. Il y a des gens qui ont fait des messes en France, à l'étranger. Il y avait vraiment des chaînes de prières incroyables. Des gens sont venus m'apporter des reliques. Et une nuit où je ne savais pas dormir, où je faisais mon chapelet au pied de mon fils, il y a deux infirmières qui sont venues me rejoindre et qui ont récité le chapelet à côté de moi. Donc je me suis sentie dans un soutien mais absolu. Absolue. Et après, quand je ne savais plus cuisiner ni conduire, parce que j'étais tout à fait perdue et tout, les gens étaient tellement présents. La famille, les amis, et puis tous ces autres parents désenfantés, c'était extraordinaire. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que les suivants, d'abord, il faut essayer qu'il n'y ait pas de suivants, évidemment, mais il faut que les suivants se sentent tout aussi soutenus. Et je trouve que ça donne sens. Et au moment où j'ai perdu mon fils, je me suis rendu compte que des gens qui n'avaient pas connu ça, j'avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas me connaître. Et c'était les seuls dont je buvais les paroles. Et je vois que les mamans que je reçois ou que j'ai au téléphone, elles ont tout le temps besoin de me demander si ça va aller après, si c'est normal qu'elles éprouvent ça. Et la seule personne qui peut le leur dire, c'est quelqu'un qui a vécu tout ça.
À côté du côté prévention, il y a aussi le soutien, hein, direct des parents que vous recevez ou que vous écoutez par téléphone.
Oui, voilà, donc suivant le lieu géographique, on prend rendez-vous et elles viennent au coin du feu, bon, pas en été, mais en hiver. Ou bien on se téléphone et je les préviens que je ne suis pas du tout une psychologue, que je n'ai pas de formation et que je vais les écouter comme une copine. Et elles viennent avec éventuellement des photos, des lettres, on lit ensemble, on parle de leur enfant, juste on en parle pour le maintenir vivant.
Avez-vous l'impression que tous les deuils, finalement, sont les mêmes, qu'on passe vraiment par les mêmes étapes ?
Moi, je ne connais que le deuil de l'enfant. Tout n'est pas la même chose. Pour avancer, j'ai l'impression qu'il faut créer quelque chose. Alors ça se développe de différentes manières, soit des fondations, faire changer les choses, ou bien s'investir simplement dans des choses qui existent déjà, donner sens à ce deuil, une recherche spirituelle. Beaucoup, beaucoup de parents cherchent une foi qu'ils n'avaient pas, soit approfondissent la foi qu'ils avaient, soit vont même voir dans d'autres religions pour voir. Donc les gens ont besoin de sens. Et bien sûr, si les mamans peuvent encore... Presque toutes ont un désir de recommencer un enfant.
Dans votre parcours spirituel, ça a été une nouvelle impulsion ?
Comme je vous avais dit quand nous étions eu au téléphone, moi j'ai toujours cru, j'ai jamais eu de doute. Et donc j'étais triste parce que je me disais, j'ai toujours essayé de vraiment bien faire et je vous ai toujours défendu à la cour de récré, partout, quand les gens vous critiquaient et quand les gens disaient du mal du pape, je faisais bien attention à lire les encycliques pour pouvoir argumenter. J'appelais des amis prêtres quand j'avais des doutes. Vraiment, j'essayais de réfléchir ma foi, pas avoir une foi de charbonnier, mais de la témoigner aux gens. Tout le monde le sait, ça n'a jamais été un secret. Et j'évangélisais les gens. Et je me disais, j'ai bien bossé pour vous. Alors, s'il vous plaît, exaucez-moi. Mais évidemment, ça ne marche pas par chantage, mais... Mon ami prêtre François de Valandruel m'a dit, quand on préparait la messe d'enterrement, le lendemain de son décès, qu'aucune prière ne demeurait non exaucée et qu'aucune prière ne servait à rien. Sur le moment, je n'ai pas compris, parce que pour moi, nous n'avions pas été exaucés. Je ne comprenais pas pourquoi nous n'avions pas été exaucés. Je savais que nous n'avions pas été, ça ne remettait pas pour moi en doute le fait que Dieu existait, ni qu'il était bon, etc. Juste, je me disais, franchement, ça aurait été cool que vous le fassiez. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai été exaucée. J'ai vraiment été exaucée parce que Lali est vivant. Il est vivant parce que ses 5 organes vivent dans 5 enfants. Donc il est vivant physiquement. Il est vivant juridiquement, puisqu'il y a la fondation Lali, qui est une vraie fondation chez un notaire. Il est vivant spirituellement, dans son âme. Il est vivant tout à fait dans le cœur de mes enfants. On lui parle tous les soirs, etc. Il est vivant. Il est dans mon cœur, il est dans le cœur des gens qui l'ont connu. Et il parle à plein de gens. Cette histoire a énormément touché les gens. Et puis, il aide, je suis convaincue qu'il aide à éviter des accidents domestiques réellement. Tous les gens qui viennent aux formations d'urgence pédiatrique, tous les amis qui sont mis à mettre des verrous à leurs fenêtres et à mettre des treillis sur les étangs. Donc voilà, mon fils est vivant, j'ai été exaucée. Et puis, la prière de tous ces gens... J'ai senti cette force bienveillante qui nous a soutenus dans ce deuil. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans ces prières, mais je sais qu'elles nous ont aidés énormément. Donc en fait, bon, on est 4 ans plus tard, il me manque toujours, bien sûr. Et voilà, si ma fille m'a demandé l'année dernière, ça m'avait fait quelque chose de très bizarre. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien aller sur la tombe de son frère et elle m'a dit, si jamais on prie très fort, est-ce que c'est possible que Jésus fasse qu'il ressuscite ? C'était particulier, j'ai pas menti, je dis, il peut le faire, mais il va pas le faire. C'est particulier les questions d'un enfant. Hein. C'était assez émouvant de voir qu'elle était toujours dans l'attente de son frère.
Et ressentez-vous le besoin justement d'aller fleurir sa tombe ?
Non, je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais. J'ai sa voiture préférée, sa Flash McQueen dans ma table de nuit. J'ai des photos de lui, j'ai des enregistrements de très chouettes moments avec lui, dont un « Je vous salue Marie » très drôle où il s'interrompt tout le temps, mais aussi des moments où il joue, il chante, où il court. Donc, mais pour moi, c'est juste une enveloppe. Et là, je sais que mon désir le plus cher est de reposer à côté de lui. Je l'ai dit à toute ma famille, ça c'est ma volonté, voilà, on l'imprime là. Je veux reposer à côté de lui, donc ce n'est pas rien. Mais ça, je pense que pour moi, ça c'est de la souffrance inutile. On apprend aussi à... Je ne regarde pas des films, par exemple, dont le sujet serait la perte dramatique d'un enfant et où on pleure tout le film. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles je me protège.
Dans vos lectures aussi ?
Oui, alors j'ai récemment lu un livre qui m'a énormément plu. Et aux 2/3 du livre, tout d'un coup, en fait, on apprend que l'enfant de cette dame est est décédée, cet enfant dont elle parle pendant tout le livre, ça m'a fait un choc, et tout le dernier tiers du livre, mais que j'ai pourtant beaucoup aimé, j'ai pleuré. Et je suis beaucoup plus sensible par rapport à ça.
Dans vos relations aux autres, avez-vous l'impression, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, le fait d'avoir quelque part changé, mais avez-vous l'impression que votre entourage a pu suivre ce changement ?
Beaucoup de mamans racontent qu'elles se sont isolées, qu'elles ont perdu leurs amis parce qu'elles ne les comprenaient pas. Moi, je trouve que j'ai plutôt trouvé beaucoup de compréhension et de bienveillance. Il se fait que presque tous mes amis étaient parents. Et donc, alors évidemment, il y a des phrases parfois un petit peu maladroites, comme la grande phrase « Je sais que tu es très courageuse, moi je n'aurais jamais pu », qui est une phrase très étrange parce que personne ne peut, mais tout le monde le fait quand même. Enfin, quand ça arrive, je veux dire. Mais après, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit parce que les gens sont pleins de bonté, ils veulent vous aider. Et après, on est des humains avec nos failles et tout. Donc, moi j'ai trouvé que les gens étaient plutôt bienveillants. Alors, il y a des gens qui ont peur du deuil, alors ils s'en vont. Mais c'est pas grave, c'est leur choix.
Pour revenir après ?
Non, pas nécessairement, mais rien qui ne m'ait blessée.
Si vous deviez distinguer quelques clés qui vous ont aidé au moment du deuil, quelles seraient-elles ?
La bienveillance envers soi-même. Je pense qu'il faut laisser tomber beaucoup de choses. Pas du tout se forcer à faire des tas de choses, à se forcer à s'habiller convenablement, à aller à Noël chez tante Hortense. Non, si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Si. Voilà, j'ai tout à fait arrêté de coucher ma fille dans son propre lit. Elle a dormi avec nous pendant des mois et on ne s'est pas vraiment posé de questions. Voilà, on vivait plus chez nous, j'arrivais plus à rentrer chez moi parce que c'était trop dur, c'est là qu'il était tombé, etc. Bien, je ne me suis pas obligée jusqu'au moment où j'étais prête et puis je n'ai pas pu entrer dans sa chambre pendant des mois. Je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, 15 jours avant mon accouchement, une de mes amies m'a dit, bon Valentine, maintenant, cette chambre, il faut qu'on la change, il y a un bébé qui arrive, il faut que tu fasses une place. Et comme une nouvelle vie arrivait, ça a été plus facile. Mais il y a des gens qui me disent « Tu dois classer ses vêtements, tu dois ranger son cartable, etc. » Je ne me sentais pas prête. Je pense qu'il faut être excessivement bienveillant envers soi-même. Si on ne répond pas à ses mails, si on ne répond pas au téléphone, ce n'est pas très grave.
Ça vous a peut-être donné davantage d'empathie à l'égard des autres aussi ?
C'est vrai que les faiblesses d'autrui, quand on est dans un parcours... En tout cas, d'apparence réussite, quand on a un travail qu'on aime, des enfants qu'on aime, une maison qu'on aime, quand tout est bien, on se sent un peu le roi du monde. Et les gens qui trébuchent, par exemple, les gens qui font une dépression, des gens qui... On leur dit pas, bien sûr, mais on peut avoir cette impression qu'ils sont un peu faibles et qu'il ferait bien de prendre sur eux. C'est très trash, ce que je dis, mais je me demande si... J'espère que je suis pas la seule qui pensait ça avant. Et ça change tout à fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus vite dépassés que d'autres. Des gens qui... Et en fait, chacun a son curseur tout à fait ailleurs. Et pour certaines personnes, ce qui les écrase n'en écrase pas d'autres. Et alors, ça change tout à fait la vision des choses. Je n'ai plus de jugement sur les choix de vie des gens.
L'empathie habite vraiment alors votre quotidien.
Oui, parce qu'en fait, tout peut s'arrêter. Je le savais théoriquement, mais je ne le savais pas dans mon cœur. Que chaque chose peut vraiment s'arrêter là, maintenant, se goûter avec les enfants. Je n'y pense pas chaque fois, mais c'est peut-être le dernier. Donc, chaque matin, quand les enfants débarquent dans la chambre, c'est juste le moment parfait. Et il faut le savourer à 100% parce que maintenant, je sais que c'est possible que les enfants meurent avant. Vraiment, dans mon cœur, je ne le savais pas. Ça me paraissait impossible. Et d'ailleurs, pendant des mois, je me souviens que je me suis réveillée en disant « ça ne peut être qu'un cauchemar ». Aujourd'hui, au XXIe siècle, en Belgique, les enfants, ça ne meurt pas. Personne n'a d'enfant qui est mort. Et en fait, c'est faux. Beaucoup de gens ont des enfants qui sont morts.
Profiter du moment présent, c'est aussi une des clés.
Ah oui. Et surtout, trouver un plaisir fou dans des tout petits moments. Le moment où on brosse les cheveux de sa fille et où elle vous raconte sa journée. Le moment où on arrive au dernier chapitre d'un livre absolument passionnant. L'odeur du granola qui sort du four. Alors tout ça paraît un peu proustien, mais juste le fait qu'il fasse beau et qu'on peut sortir sans pull, je trouve que ça doit... Voilà. Donc j'ai un air de ravie de crèche la moitié du temps, mais parce que vraiment, maintenant, aujourd'hui, n'importe quoi me rend profondément heureuse.
Comment imaginez-vous la fondation dans 10 ans et puis votre parcours de mère ?
Ah, j'espère que mes enfants vont s'y intéresser. Là, on voudrait faire des formations de soins, de premiers soins, et qu'on est en train de mettre en place directement dans des écoles. On va commencer par des écoles plutôt très défavorisées, très précarisées, parce que là, il arrive quand même souvent que les enfants, les parents doivent repartir travailler le soir et sont donc seuls avec des plus jeunes frères et sœurs et font carrément la cuisine, donnent les bains, etc. Donc on pense que c'est très important d'aller là. Ce serait fabuleux que ma fille aînée puisse s'impliquer là-dedans, soit intéressée. Et ce serait gai de travailler en collaboration avec les enfants, je trouve.
Et les projets sont lesquels maintenant pour l'Ali Fondation ?
Les projets sont des nouvelles bourses sur le traumatisme crânien en collaboration avec la KU Leuven et Kids Brain IT, qui est un projet plus européen qui travaille en collaboration avec l'Angleterre. Il y a ce projet, comme je vous ai dit, d'aller directement, avec des formateurs parler dans les écoles et peut-être après élargir à différentes autres écoles. Ici, ça va être les primaires pour commencer. À voir si on continue sur les humanités ou si on quitte Bruxelles aussi, voilà. Donc ça, c'est les projets. Et puis, on va participer à la quinzaine de la petite enfance à Ixelles, en collaboration avec la commune. Donc voilà, il y a plein de projets.
Il est quand même frappant de voir que de nombreuses associations voient le jour à partir d'une histoire personnelle.
Oui, alors tout à fait. Mon mari et moi, nous étions en train de faire une fondation qui s'appelait la Fondation Calliope. Nous avions déjà écrit les statuts, donc sans drame personnel, où on voulait faire venir la littérature et le théâtre dans les écoles. Donc on était tout à fait motivés, on était prêts, on avait des tas d'idées, de projets et tout. Et puis Charlet est parti, alors nous avons acheté un chien que nous avons appelé Calliope, comme ça on gaspille rien, hein. Pas de nom, rien, Calliope, voilà. Et puis on a transformé la fondation, puisque tout d'un coup, le théâtre et la littérature, ça nous paraissait bien, mais moins essentiel que la recherche, les accidents domestiques, la sensibilisation aux dons d'organes, etc. Parce que ça c'est le quatrième pilier dont on n'a pas encore parlé de la fondation Ali. Et donc nous nous sommes dit, voilà, hop, on reprend les statuts, on les transforme. On voulait quand même faire quelque chose. Mais c'est vrai que tout d'un coup, les choses paraissent avoir beaucoup de sens quand on l'a vécu de près. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ce qu'il manque. On s'est rendu compte, par exemple, que plein de gens ne savaient pas encore comment on agissait avec une brûlure. Que beaucoup de gens ne savaient pas faire la manœuvre de désobstruction, qui est différente sur les bébés ou sur les enfants, par exemple. Or, il arrive dans toute vie de maman qu'à un moment, un enfant s'étouffe avec quelque chose. Ou une piqûre d'insecte, enfin... Des accidents domestiques légers qui se terminent très bien, ça nous arrive. Et donc, savoir qu'il ne faut pas mettre de beurre sur une brûlure, mais comment il faut agir, eh bien, ça aide tout le monde.
Don d'organes, don de vie. Le fait de savoir que votre fils vit dans 5 personnes, ça, c'est important.
Extrêmement. Vous vous rendez compte que son cœur bat, que ses poumons se gonflent et que 5 enfants seraient morts sans lui. C'est... Moi, je trouve que ça montre que la mort n'a pas gagné. Que c'est la vie qui a gagné. Et lui, il vit dans sa fondation et dans nos cœurs, etc. Et les 5 enfants vivent. Et combien d'enfants vont vivre, j'espère beaucoup, grâce aux conseils qu'ils auront glanés dans cette maison qui permet de sécuriser son domicile.
Donc ça, c'est un aspect très pratique. Pour vous aider dans le développement de ces projets, vous vous entourez de professionnels du monde médical et d'autres ?
Oui, et pour la maison, d'architectes. Donc on a montré, donc, puisqu'il y a chaque pièce, le salon, le garage, etc. Donc on a demandé au monde médical, qu'est-ce que vous voyez comme accident domestique ? Et puis après, aux architectes, quelles sont les normes légales, etc. Et c'est ainsi qu'on a réussi à faire quelque chose, j'espère, d'exhaustif. Mais quand nous apprenons un nouvel accident domestique, par exemple cet enfant qui chargeait son téléphone pendant qu'il était dans son bain, et qui avait son téléphone, et qui a une. Eh bien, on a rajouté ça, par exemple. Donc, quand il y a des choses dont on entend parler qui sont dangereuses, eh bien, nous essayons toujours de l'actualiser.
Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ou partager ?
Que les enfants sont une chose absolument extraordinaire, et qu'en fait, c'est incroyable parce qu'on les chérit toute notre vie, quels qu'ils soient. Qu'ils soient partis, qu'ils soient abîmés par un accident, par la vie, ou qu'ils soient pleins de vie. C'est quelque chose qui nous comble de joie. Et qu'il faut y penser dans les moments où ils sont un peu plus difficiles.
Ça, c'est un appel aux mamans pour relativiser, peut-être ?
Écoutez, j'ai été à un mariage le week-end dernier. Et le prêtre a dit en homélie, tous les mariés, tous les couples ont comme idée un nombre d'enfants. Eh bien, faites le nombre d'enfants que vous voulez. Et puis, rajoutez-en un. Pour que vous sachiez, comme ça, vous avez une ouverture au plan de Dieu pour vous. Je trouvais ça très beau. Et après, on en a beaucoup parlé lors du dîner. Il y a plein de gens que ça a remué dans leurs réflexions. Faites-en toujours un de plus. Je trouve ça assez beau.
Baby boom annoncé en Belgique.
C'était Valentine Delecourt qui témoignait de son parcours à la suite du décès de son petit garçon de 4 ans. Valentine a créé avec son mari la fondation Lali. Elle œuvre dans la prévention des accidents domestiques, le financement de projets liés à la recherche sur le cerveau, la sensibilisation aux dons d'organes et l'accompagnement dans le deuil. Je vous invite à vous rendre sur le site lalifoundation.com, lalifondation.com pour ceux qui ne sont pas en mode anglais, pour plus de détails sur les projets menés par la fondation.
Un tout grand merci. Merci à Angélique Tazio qui a recueilli pour nous ce témoignage touchant et plein d'espérance de Valentine. Merci à Laurent Nélissen pour la technique de cette émission et à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination. Natacha, un grand merci également et on se retrouve déjà demain soir à 20h pour notre rendez-vous habituel d'Il était une fois.
Un grand merci à vous aussi Manu, on se retrouve déjà demain, je ne sais pas comment il faut prendre ce déjà. Bon, merci Angélique pour cette magnifique émission, magnifique thème et à demain.